الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 24 من شهر صفر من عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس العاشر في شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre 2018 et nous sommes réunis pour le 10e cours du livre Al-Ubudiyya, la servitude de l'imam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى. L'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde, nous montre la ressemblance entre les partisans de l'innovation dont il parle dans ce livre et les polythéistes de Quraysh. Il nous dit, il n'y a aucun doute sur le fait que le peuple de Quraysh, les polythéistes, commettaient des innovations d'une part, et d'autre part, délaissait les interdits et justifiait ce délaissement par le destin. Il a montré quelques arguments montrant et appuyant ce fait. Puis il a montré la ressemblance qu'il y a entre ces gens dont il parle dans le livre, qui sont les adeptes du soufisme, qui ont des croyances erronées dans le destin et dans les ordres et les interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, entre ces gens-là et les gens de Quraysh. Il nous montre que dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que ces gens-là, c'est-à-dire les polythéistes, désobéissaient à Allah et n'hésitaient pas à dire « Si Allah l'avait voulu, nous n'aurions pas commis de polythéistes. » Ils prétendaient à travers cela que c'était une excuse, qu'il n'était donc pas châtiable. On ne pourrait pas les châtier le jour dernier. Et bien sûr, cette ambiguïté est complètement fausse, comme nous l'avons vu. Après cela, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit « وَهَاُولَاءِ قَدْ يُسَمُّونَ مَا أَحْدَثُوهُ مِنَ الْبِدَعِ حَقِيقَةً كَمَا يُسَمُّونَ مَا يَشْهَدُونَ مِنَ الْقَدْرِ حَقِيقَةً » Ces gens-là, c'est-à-dire les gens de l'innovation, du soufisme, qui ont délaissé les ordres et les interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ne les ont donc pas appliqués ni délaissés, appliqués pour les ordres, délaissés pour les interdits, innovent dans la religion d'Allah, et il se peut qu'ils donnent comme appellation à leurs innovations la même appellation qu'ils ont donnée à leur foi erronée au destin. Comment est-ce qu'ils ont appelé cette foi? Ils ont dit, c'est la foi en la réalité. Dès lors que nous sommes convaincus qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de toutes choses, donc de nos actions, nos paroles, nos faits et gestes, nous sommes exemptés de l'accomplissement des ordres et des interdits. Comme nous l'avons détaillé à maintes reprises. Ils appellent cela al-haqiqa. Ils divisent la religion en deux. Al-haqiqa et al-shari'a. Ils divisent la religion en deux. Ils disent qu'il y a d'une part al-haqiqa, la réalité, l'il-khawas, qui concerne les gens parmi les élites. Et il y a al-shari'a, la législation d'Allah. Pour eux, la législation ne concerne que les gens de la masse. On les appellera les petits débutants. Alors qu'en réalité, Shari'atullah subhanahu wa ta'ala, la législation d'Allah, qui constitue donc ses ordres et ses interdits, concerne toute personne qui dit la ilaha illallah depuis l'âge de sa puberté jusqu'à sa mort. Ils disent donc, dans la religion, il y a al-haqiqa wa al-shari'a. La haqiqa, la réalité, c'est pour nous. La sharia, la législation, c'est pour les gens de la masse. Et ils appellent leurs innovations également haqiqa, comme ils le font pour le destin. Donc, ils se retrouvent à innover dans la religion et à appeler leurs innovations haqiqa, réalité. Quiconque l'atteint peut marcher sur cette voie. Et leur délaissement des ordres et leur accomplissement des péchés, ils l'appellent aussi haqiqa, réalité. Quiconque l'atteint peut délaisser les ordres et tomber dans les péchés. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir. Mais tout d'abord, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit « Inna as-sufiyyata alladhina yabtadi'una ibadatin lam yashra'ha Allah wa yatrukuna ma shara'ahu Allah » Les gens du soufisme qui innovent des actions d'adoration non légiférées par Allah et délaissent les prescriptions d'Allah, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, yuqassimuna ad-din ila haqiqatin wa shari'a, divise la religion en deux, la réalité et la législation. Wa yaqulun al-haqiqatu lil-khawass wa ash-shari'atu lil-awam ma'a anna ash-shari'ata lil-jami'. Ils disent que la réalité concerne les élites alors que la législation concerne les gens de la masse. Or, en réalité, la législation concerne l'ensemble des gens. Et quant à leurs innovations, le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, quant à leurs actions face au destin, leur foi au destin, فَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَا يَفْعَلُونَهُمْ مُوَافِقٌ لِلْقَدَرِ وَإِنْ كَانَ كُفْرًا وَشِرْكًا فَهُمْ مُطِيعُونَ فِيهِ لِلَّهِ. Ils prétendent que tout ce qu'ils font est en accord avec le destin. Donc, ils sont en cela obéissants à Allah, même s'ils commettent le kufr et le shirk. On ne peut donc pas les blâmer, parce que d'après eux, c'est le fruit de ce qu'Allah a décrété. يُعْرِضُونَ عَمَّا شَرَعَهُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى مَا تَهْوَاهُ نُفُوسُهُمْ. Ils se détournent de ce qu'Allah a prescrit et se dirigent vers les passions de leur âme. Ensuite, l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit وَطَرِيقُ الْحَقِيقَةِ عِنْدَهُمْ هُوَ السُّلُوكُ الَّذِي لَا يَتَقَيَّدُ صَاحِبُهُ بِأَمْرِ الشَّارِعِ وَنَهْيِهِ وَلَكِنْ بِمَا يَرَاهُ وَيَذُوقُهُ وَيَجِدُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَهَؤُلَاءِ لَا يَحْتَجُّونَ بِالْقَدَرِ مُطْلَقًا بَلْ عُمْدَتُهُمْ اتِّبَاعُ آرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ وَجَعْلُهُمْ لِمَا يَرَوْنَهُ وَيَهْوَوْنَهُ حَقِيقَةً وَأَمْرُهُمْ بِاتِّبَاعِهَا دُونَ اتِّبَاعِ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ نَظِيرُ بِدَعِ أَهْلِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَا ابْتَدَعُوهُ مِنَ الْأَقْوَالِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ حَقَائِقَ عَقْلِيَّةً يَجِبُ اعْتِقَادُهَا دُونَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السَّمْعِيَّاتِ. L'imam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: la voie pour arriver à ce que eux appellent al-haqiqa, eux, c'est-à-dire les gens du soufisme, qui innovent dans la religion et qui disent nous sommes arrivés à la réalité, nous n'avons plus besoin de la législation, car nous sommes arrivés à la réalité. La voie y menant d'après eux, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il s'agit du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. La voie y menant d'après eux, ce sont ces actions qui sont en concordance avec leur goût, leur envie et ce qui leur plaît, tout simplement. Dès que quelque chose leur plaît, concorde avec leurs envies, leurs passions, ils disent de cette chose « hiya haqiqa », cette chose est la réalité. Même s'il s'agit d'innovation dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ne se basent pas sur les textes, mais ils se basent plutôt sur leur goût. J'ai essayé, cela m'a plu, c'est pourquoi nous devons le faire. Et tu devrais essayer toi aussi pour t'apercevoir combien ça te plaira. Et ainsi de suite. On détaillera cela très bientôt, inshallah. Et ces gens-là ne justifient pas par Al-Qadar dans toute chose comme nous l'avons vu. Ils s'appuient en réalité, pour se justifier par le destin, sur le suivi de leur passion. Sur le suivi de leur passion et ce qu'ils ont envie de faire. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit « Fahum ziyadatan ala l'ihtijaji bil qada'i wal qadar » En plus du fait qu'ils justifient leurs actes interdits par la foi au destin, « Faqad adafu ila dhalika tiba'a ma yahwawnahu wa ma yatalazzadhuna bihi min al-umur » فيشرعون لأنفسهم ما لذ لهم ووافق أهواءهم ورغباتهم. En plus de cela, ils ont ajouté le suivi de leur passion au point de prescrire dans la religion des choses simplement parce que ces choses leur plaisent et non pas parce qu'elles sont légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُعْرِضُونَ عَنْ شَرْعِ اللَّهِ Ils se détournent alors de ce qu'Allah a prescrit, subhanahu wa ta'ala. وَيُسَمُّونَ مَا يَشْرَعُونَهُ لِأَنفُسِهِمْ هُوَ الذَّوْقَ وَالْوَجْدِ Comment est-ce qu'ils appellent toutes ces actions qu'ils ont suivies, qu'ils ont appliquées, malgré l'absence de ces actions dans les ordres d'Allah, azza wa jal, et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils appellent cela « الذوق » et al-wajd, c'est-à-dire le goût. Al-dhawqu, c'est le goût. Dans le sens où ces gens-là disent, nous avons essayé, et nous y avons trouvé un plaisir. Nous nous sentons bien lorsque nous commettons tel et tel acte, lorsque nous prononçons telle et telle parole. Nous nous sentons bien. Tu devrais essayer toi aussi. Donc, ils ont délaissé le livre et la sunna, et se sont basés sur leur goût, sur leurs désirs, sur leurs envies, alors que chacun est différent de l'autre. Le goût de chacun n'est pas celui de l'autre. Imaginez-vous la difficulté de la religion si l'on devait s'appuyer sur nos goûts, nos désirs, avec toutes les différences que nous avons tant bien dans l'origine que dans les coutumes, mais aussi dans les habitudes et autres. Qu'est-ce que la religion deviendrait si elle était basée sur « viens essayer, goûte avec nous, tu te rendras compte combien c'est magnifique. » L'un va m'envoyer à droite pour goûter avec lui. L'autre va m'envoyer à gauche, car il préfère aller à gauche. Un troisième va me dire « c'est plutôt en face de toi qu'il faut aller. » Le quatrième va me dire « il faut aller plutôt derrière. » Et le cinquième va me dire « tous ces gens-là disent n'importe quoi. » Mais moi, j'ai la voie à suivre, n'est-ce pas? La religion deviendrait alors une anarchie totale. Est-ce que c'est cela qu'Allah a voulu de nous? Est-ce que cela concorde avec la sagesse parfaite d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Et bien sûr que non. Voilà pourquoi ces gens-là sont tombés dans tous ces égarements et toutes ces innovations. وَأَمْرُهُمْ بِالتِّبَاعِ نعم, nous l'avons déjà lu. En cela, nous dit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il ressemble à ceux que l'on appelle Ahlul Kalam, les gens de la parole, dont nous avons parlé dans le livre Al-Aqidatul Wasitiyyah, qui sont ceux qui font prévaloir la raison humaine au texte du Coran et de la Sunna. Comment est-ce qu'ils agissent ces gens-là? Parmi ceux que l'on appelle Al-Jahmiyyah et les autres. Il y a certes Al-Jahmiyyah qui sont les têtes des gens du kalam, des gens de la parole, de ce que l'on appelle Ilmul Kalam, la science de la parole. Elle a été appelée comme cela car en réalité ce ne sont que des paroles qui ne sont appuyées ni par le Coran ni par la Sunna. Ce n'est donc pas une science. C'est ce que l'on appelle dans le jargon du blabla. Ils ne font que parler, que supposer. Ils ne font que suivre les conjectures et les pensées. Les gens appelés Al-Jahmiyyah, qui ont, à cause du fait qu'ils ont fait passer la raison devant les textes, ils ont falsifié les noms, les attributs d'Allah. Ils n'y ont pas cru du tout. Ils ont rejeté le nom, les noms et les attributs d'Allah. Pourquoi ? Parce que leur raisonnement leur a dit « Ce n'est pas possible d'affirmer qu'Allah est au-dessus. » Car si l'on affirme qu'Allah est au-dessus, il en découle telle et telle chose que ma raison n'accepte pas, alors c'est faux. Ce n'est pas possible d'affirmer qu'Allah a deux mains. Car si j'affirme qu'Allah a deux mains, ça voudra dire telle et telle chose, et ainsi de suite. Et avec ce raisonnement, ils ont rejeté les textes du Coran et de la Sunna, qui sont on ne peut plus explicites, pour s'appuyer sur leur raison, sur leur raisonnement. En cela, ils ont agi, c'est-à-dire Al-Jahmiya, comme les gens du soufisme, qui ont innové dans la religion d'Allah, et qui se sont dit, j'ai goûté, j'ai essayé, je m'y sens bien, rejoins-nous. C'est comme cela que l'on doit avancer. L'un, les uns se sont basés sur leur raison, les autres se sont basés sur leur goût. Voilà comment les gens innovent dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Essaye, ça te plaît, c'est bon. Réfléchis, ta raison l'accepte, c'est bon. Ta raison ne l'accepte pas, c'est mauvais. Ça ne te plaît pas, il ne faut pas le faire. Est-ce que c'est ça qu'Allah Azza wa Jalla a voulu de nous? Comment la religion deviendrait difficile si c'est ce chemin-là que l'on devait suivre? Mais Allah est bien plus miséricordieux que ces gens qui ont rendu la religion, pardon, très difficile. Ces gens-là, que ce soit Al-Jahmiya, dont le fondateur, le penseur, la tête, est le dénommé Al-Jahm ibn Safwan, et les autres, comme Al-Mu'tazila, dont le fondateur et le penseur est le dénommé Wasil ibn Atta. Mais il y en a d'autres encore. Il y a Al-Asha'ira, dont le fondateur au début était Abul Hassan al-Ash'ari, mais à qui Allah Azza wa Jal a accordé la grande faveur du repentir. Il a délaissé cette voie erronée, il s'en est détourné, il a mis en garde contre cette voie, mais les suiveurs, eux, ont continué dans leur fanatisme au point de dire ou de démentir les écrits dont l'auteur est Abul Hassan al-Ash'ari, dans lesquels il s'est désavoué de son ancienne école qu'il suivait. Voyez ce que fait le fanatisme envers ses adeptes. Tous ces gens-là, dans ce qu'ils ont innové comme parole contredisant le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces choses-là, comment est-ce qu'ils les ont appelées? Ils l'ont appelé haqiqa. Lorsqu'ils ont dit, on ne dit pas qu'Allah est au-dessus, on ne dit pas qu'Allah est demain, on ne dit pas qu'Allah voit, on ne dit pas qu'Allah entend, on ne dit pas... Eh bien, ils ont appelé cela haqiqatun aqliya. C'est une réalité de la raison. Ma raison m'a emmené vers cette réalité qui est la suivante. Allah n'a pas ses noms ni ses attributs. Donc, voyez comment est-ce qu'ils ont suivi un chemin et à quoi ce chemin les a emmenés. Ces gens-là, les gens de Ahlul Kalam, qui font prévaloir la raison au texte, toutes ces sectes-là se sont égarées de cette façon, en faisant prévaloir le raisonnement au texte. Les autres, les gens du soufisme et leurs similaires et leurs semblables, se sont égarés en faisant prévaloir leur goût au texte. Et ces deux choses-là ont été réunies dans un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسِ » Ils ne font que suivre les conjectures. Ici, l'on parle de ceux qui, notamment, font passer la raison avant les textes. Ils ne font que conjecturer. Ils ne font que suivre des éventualités, qui en réalité sont fausses, bien sûr. Ils ne font que penser et suivre ce à quoi leur pensée les a emmenés, ou alors la pensée de leur maître, de leur tête pensante. Ça, c'est la première catégorie de personnes. « Ils ne font que suivre les conjectures, وَمَا تَهْوَ الْأَنْفُسِ et ce que leur âme désire. Ici, on parle de qui? Des gens qui suivent les patients. Et qu'est-ce qu'Allah a dit, Azza wa Jal, tout de suite après? وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى et la guidée de ton Seigneur leur est venue. C'est-à-dire, malgré la clarté de la guidée par laquelle ton Seigneur leur est venu, malgré cette guidée qu'il leur a démontrée dans les textes du Coran et de la Sunna, il y a eu des gens qui ont suivi les conjectures et qui ont dit « ma raison n'accepte pas telle chose, ma raison croit à telle chose » et les autres qui ont suivi leur passion « j'ai essayé, je m'y plais ». Allah Azza wa Jalla a réfuté ces deux voies de l'égarement. Et combien on trouve cet égarement aujourd'hui? Nous prendrons en exemple des groupes qui prétendent prêcher, appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, au lieu de nous critiquer, malgré le fait qu'en réalité, tu entretiens avec eux un dialogue scientifique appuyé par des preuves du Coran et de la Sunna, montrant que leurs actions, que leur méthodologie, que leur façon d'agir n'est pas conforme à ce qu'Allah nous demande, à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prescrit. Ils répondent, face à cela, ils te disent, tu devras venir avec nous pour comprendre. Donc il ne s'agit plus de suivre les textes du Coran et de la Sunna, mais il s'agit de venir, de goûter avec vous, de voir que finalement cela a un bon goût, mais qu'est-ce que la religion deviendrait alors? Et n'avez-vous pas lu la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala? وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. N'avez-vous pas vu ce verset où Allah Azza wa Jal dit, le diable a enjolivé leurs actions. Le diable a enjolivé leurs actions, il les a embellies. Ce goût dont vous me parlez est exactement l'explication de ce verset en réalité. Lorsque vous dites, viens essayer avec nous, tu vas t'y plaire. Vous me rappelez la parole d'Allah, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Le diable leur a enjolivé leurs actions. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Et par cela, il les a fait dévier de la voie, c'est-à-dire la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous conseillons donc à toute personne qui est susceptible de nous écouter, de nous entendre, que ce soit à travers le direct ou l'enregistrement, de se baser sur la volonté divine, sur les textes du Coran et de la Sunna, non pas sur les goûts de l'un et de l'autre. Car les goûts de l'un et de l'autre varient. Il se peut que toi, tu me dises, viens me suivre, viens avec nous dans ce qui est appelé Al-Khuruj, la sortie pour appeler à Allah de 40 jours, de 4 mois et autres, retrouvé dans le groupe Jama'atut Tablir. Chaque fois qu'il est montré les arguments, ils répondent, il faut essayer pour comprendre. C'est-à-dire qu'il faut délaisser le Coran et la Sunna pour comprendre. Le Coran et la Sunna nous enseignent comment appeler Allah, à quoi appeler, qui appeler, comment transmettre, par quoi commencer. Lorsque je mets votre méthodologie sur la balance du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ô croyants, et sur la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je m'aperçois comme tout le monde qui étudie la science et qui rechercherait la vérité, que vous n'êtes pas en conformité. Comment alors pouvez-vous répondre? Tu devras venir avec nous pour comprendre. Pour comprendre quoi? J'ai déjà compris qu'Allah Azza wa Jalla a dit « وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ » Allah leur a embelli leurs œuvres. Et ce que vous dites que vous ressentez en bien, c'est exactement l'explication de ce verset. Pareil, les gens du soufisme qui innovent dans les façons d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, ils se réunissent en ronde et Ils prononcent ce qu'ils pensent être des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des invocations d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on y entend des exagérations pas possibles. des interdictions d'Allah Azza wa Jal, du shirk, des innovations. Ils répondent, viens faire avec nous, tu te sentiras bien. Chez le soufisme de la voie Tijaniya, il y a une prière qui est appelée Salatul Fatih, qui est pour eux une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'après eux, c'est le prophète même sallallahu alayhi wa sallam qui est sorti de sa tombe et qui est allé en vrai et non pas en rêve vers la grotte où se recueillait Ahmad al-Tijani pour lui enseigner cette prière et lui dire que si il récite cette prière, cela sera pour lui meilleur que de lire 6000 fois le Coran. Wal-iyadhu billah. Si ça ce n'est pas l'égarement, qu'est-ce que c'est d'autre? J'ai discuté avec l'un d'entre eux et je lui ai dit, dis-tu que Salatul Fatih est meilleur que le Coran? Il m'a répondu de manière claire, je ne dis pas qu'elle est meilleure une seule fois, je dis qu'elle est meilleure plus de 1000 fois que le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Que le Coran, que la parole d'Allah, mais où êtes-vous, où en êtes-vous arrivé? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelque chose de meilleur que cela? Allah a parlé par le Coran, il y a quelque chose de meilleur que cela? Innahu shay'un ajib. C'est vraiment là quelque chose de très étonnant. Qu'est-ce qui les a poussés à tomber dans ça? Al-dhawq, dont parle l'imam Ibn Taymiyyah, le goût, dont l'explication est « وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ » Le diable leur a embelli leurs œuvres. Et c'est pour cela qu'ils se disent « On se sent tellement bien lorsque nous sommes là à invoquer de telle et telle façon, à proclamer des formules de dhikr de telle et telle manière, à lire le Coran de telle et telle façon, et ainsi de suite. » Et vous comprenez qu'est-ce qui les a poussés à tomber dans ces innovations ?« الذوق » Le goût, le désir, ce qu'ils ressentent de ces actions. Si le dhawq était un argument, alors celui qui consomme l'alcool aurait trouvé son excuse devant Allah. Celui qui consomme les drogues aurait trouvé son excuse devant Allah, car ces gens-là ne le font qu'à cause de ce goût qui a été embelli par le shaytan. Wal-iyadhu billah. Ainsi, l'on voit la manière des gens de l'innovation. Ceux qui sont appelés Ahlul Kalam, les gens de la parole, c'est-à-dire ceux qui font prévaloir la raison au texte, parmi eux Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila et autres. Ils ont une ressemblance dans la manière de justifier leurs actions avec les gens du soufisme. As-Soufiya, les gens du soufisme, fi amrihim, باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام إلى آخره. Il leur ressemble, car les gens de la parole disent, les gens de la parole, vous comprendrez qu'il s'agit de ceux qui font prévaloir la raison au texte quand il s'agit de la croyance dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Les gens de la parole disent, c'est la réalité de la raison qui m'a amené à avoir cette croyance. C'est la réalité de la raison. Les soufis disent, c'est la réalité du goût. Donc les deux suivent ce qu'ils ont appelé réalité. Comme ceux qui ont justifié leur délaissement des obligations et leur accomplissement des péchés par la réalité du destin. Donc à chaque fois, ils sont trompés par ce qu'ils appellent la réalité. Et c'est ça qui les a fait tomber dans ce gouffre. Wal-iyadhu billah. Qu'est-ce que disent les gens de la parole? Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit, ces gens-là font passer, comme nous l'avons dit, la raison avant les textes. Pourquoi? Parce que d'après eux, les textes n'amènent pas à une certitude. Alors que la raison amène à une certitude. Ainsi, nous suivons ceux qui nous amènent à la certitude et nous délaissons ce qui ne peut pas nous amener à la certitude. Qu'est-ce qui ne peut pas nous amener à la certitude? Qala Allah, qala Rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit, le prophète a dit. Ça ne nous amène pas à la certitude. Donc quand Allah Azzawajal nous dit qu'il entend tout, qu'il fait miséricorde, qu'il se met en colère contre les gens qui lui désobéissent, qu'il accueille le repentir, qu'il est au-dessus des cieux, qu'il a deux mains, qu'il a un visage, eh bien ça ne nous amène pas à la certitude qu'il a deux mains, qu'il a un visage, qu'il est au-dessus des cieux, et ainsi de suite. Par contre, le raisonnement amène à la certitude d'après eux. Et leur raisonnement les a amenés à la certitude qu'Allah n'a pas ce qu'il a dit qu'il a. Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est ça la certitude? C'est ça le chemin d'Allah? Subhanahu wa ta'ala. Quel égarement. Ils appellent leur preuve adillatul aql, les preuves de la raison. Ou encore al-haqa'iq al-aqliya, la réalité de la raison. Ils disent des preuves du Coran et de la Sunna, al-adillatu as-sam'iyyat, les preuves que l'on entend, c'est-à-dire on entend les textes du Coran et de la Sunna. Pour eux, les preuves de la raison passent devant les preuves que l'on entend, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Comment est-ce qu'ils agissent avec le Coran et la Sunna alors? Parce qu'ils ne veulent pas suivre la vérité contenue dans le Coran et la Sunna. Ils sont bien obligés d'avoir une façon d'agir devant le Coran et la Sunna. C'est ce que va nous enseigner l'imam rahimahullah lorsqu'il nous dit « ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. Quant au livre et à la sunna, soit il le falsifie, soit il s'en détourne totalement. Il ne le médite pas du tout, ni ne le comprenne, et disent « Nous abandonnons le sens de ces textes à Allah ». C'est-à-dire, les gens de Ahlul Kalam, de la parole, qui font prévaloir la raison au texte, ont suivi leur raison qui les a poussés à refuser à croire certains, beaucoup, pour d'autres, tous les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème étant que dans le Coran et dans la Sunna, Allah se nomme. Wallahu huwa al-ghani al-hamid. Il se nomme al-ghani al-hamid. Wa kana Allahu qawiyan aziza. Il se nomme qawi aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Il s'est bien nommé ar-rahman ar-rahim. Comment est-ce qu'ils agissent devant ces textes? Ils ont deux méthodes. La première, c'est la falsification des textes. C'est-à-dire qu'ils donnent au texte un sens qui n'est pas le véritable sens. Par exemple, quand Allah Azza wa Jal dit « Bal yadahu mabsutatan » Allah a deux mains, ses deux mains sont tendues, ils disent en réalité le sens de « yad » main dans ce verset n'est pas la main que vous pensez être. Mais c'est un autre sens. La main dans la langue arabe, « yad » a plusieurs sens parmi lesquels « ni'ma » le bienfait. Donc en vérité, c'est vous qui avez mal compris le verset. Allah ne veut pas dire qu'il a deux mains, il veut dire qu'il a deux bienfaits. Le problème étant que dire qu'Allah a deux bienfaits est une mécréance, car Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le sens du verset, si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le dénombrer. Donc il y en a tellement, ils sont tellement nombreux, que vous ne pouvez pas les dénombrer. Mais si vous donnez, vous, l'explication des deux mains dans ce verset comme étant deux bienfaits, vous avez renié l'autre verset qui dit que les bienfaits d'Allah sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les dénombrer. Vous voyez comment ils s'égarent. Dès qu'ils falsifient les textes, ils sont dans l'égarement de manière inévitable. Donc soit ils falsifient les textes en leur donnant un sens qui n'est pas le leur, ou alors ils vont carrément changer un mot ou une lettre dans le texte, car dans la langue arabe, lorsque tu ajoutes une lettre ou en enlèves une, tu peux complètement changer la forme du mot et donc le sens. Et ils ont alors falsifié de cette façon les textes du Coran et de la Sunna, car ils ne sont pas en accord avec leur raison qui a été rendue malsaine par la souillure de la philosophie. C'est ça qui a détruit ces gens-là. C'est d'avoir traduit les livres de philosophie en langue arabe. Et vous savez que la philosophie se résume à des questions sans réponse. Voilà ce qu'ils ont fait avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors, s'ils ne falsifient pas les textes, pourquoi est-ce qu'ils ne les falsifient pas? Car des fois, elles sont tellement claires qu'ils sont infalsifiables. Alors, ils passent à la deuxième étape qui est « Wa imma an yu'ridu anhu bil kulliya ». Ils s'en détournent totalement, ils ne les méditent pas, ils disent « Nous abandonnons le sens de ces textes à Allah ». Ar-Rahman ar-Rahim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de sens. Il n'y a qu'Allah qui connaît son sens. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Il refuse de croire qu'Allah est en haut, qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Résultat, ils disent, nous abandonnons le sens à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le problème est ce que nous dit l'imam Ibn Taymiyyah. Ma'atiqadihim naqid wa madlulihi. Ils disent abandonner le sens de ces textes à Allah tout en croyant au contraire de ce texte. Donc en fait, ils n'ont pas abandonné le sens à Allah. Ils disent, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Nous abandonnons le sens à Allah. Nous leur disons, est-ce qu'Allah est en haut? Ils disent non. Donc vous n'avez pas abandonné le sens à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et même si vous aviez abandonné le sens à Allah réellement, donc sans dire non, vous auriez voulu alors dire qu'Allah a révélé des versets, il nous a donné l'ordre de les méditer, et ensuite il nous a empêchés de les méditer. Car l'on ne peut méditer un verset que si on le comprend. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi » Un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'ils en méditent les versets. Comment vais-je méditer un verset si je ne peux pas le comprendre? Donc est-ce qu'Allah se contredit? Voyez où ce que l'égarement amène. Donc les gens de Ahlul Kalam, les gens de l'innovation de la parole, lorsqu'ils sont face à des textes qui contredisent leurs croyances, soit ils les falsifient et leur donnent des sens qui ne sont pas les leurs, et s'ils ne peuvent pas le faire, alors ils disent « Nous abandonnons le sens de ces textes à Allah ». Le problème étant qu'en réalité, ils croient au contraire de ce que ces textes disent. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit « Fahum yattabi'un al-adillat al-aqliyyat wal-barahin al-mantiqiyya ». Ces gens-là suivent les preuves de la raison et de ce qu'ils appellent leur logique. Ce n'est pas logique, c'est logique. C'est logique, ce n'est pas logique. Combien de gens se sont égarés à cause de ça? Il dit « لِأَنَّ عَقَائِدَهُمْ أَبْنِيَّةٌ عَلَى ذَلِكَ » Car toute leur croyance est basée sur ce raisonnement-là. فَهُمْ لَا يَحْتَجُّونَ لَا بِالْآيَاتِ وَلَا بِالْأَحَادِيثِ وَإِنَّمَا يَحْتَجُّونَ بِقَوَاعِدِ الْمَنْطِقِ وَعِلْمِ الْكَلَامِ وَيُسَمُّونَهَا بَرَاهِينَ قَطْعِيَّةٌ. Ils ne se basent pas sur aucun verset ni hadith, mais ils se basent plutôt sur des règles inventées tirées du raisonnement et de la rhétorique ou de la logique. Voilà sur quoi ils se basent. C'est pour cette raison qu'un cheikh chez eux peut parler dans un dars pendant une heure et demie et tu ne vas ni entendre « Qala Allah » ni « Qala Rasulullah ». Mais tu vas entendre « Ceci est impossible parce que en comparaison à telle chose, ça ne peut pas aboutir. Donc, on ne peut pas croire à ça. Nous avons l'obligation de croire à ça parce que Voilà ce que tu vas entendre dans leurs assemblées, dans leurs assises. Un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit parmi leurs maîtres penseurs, parmi les philosophes. Qala Allah, qala Rasul, non, 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 surtout pas ça. Pourquoi? Parce que qala Allah, qala Rasul n'amène pas à la certitude pour eux. Par contre, qala, un tel a dit, amène à la certitude. Allahu Akbar. الشيخ صالح الفوزان ندي وموقفه من أدلة القرآن والسنة leur position face aux preuves du Coran et de la Sunna est ce que l'on vient d'entendre. C'est-à-dire, soit ils falsifient ces textes, soit ils disent nous abandonnons le sens de ces textes à Allah, alors qu'ils se contredisent puisqu'ils ne croient pas en ce que ces textes veulent dire. فهذه طريقتهم مع أدلة الشرع. C'est donc leur manière d'agir face aux preuves de la législation. Donc pour eux, le Coran et la Sunna, dans les croyances auxquelles ils n'ont pas adhéré, ressemblent à ce que l'on appelle al-raz, c'est-à-dire des questions sans réponse, des devinettes. Qu'est-ce que veut dire ce nom? Qu'est-ce que veut dire cet attribut? Pour eux, c'est comme une devinette sans réponse. Voilà comment ils se sont perdus. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit que ces gens-là attribuent cette manière de penser aux salafs. Oh combien c'est faux! Les salafs ont combattu ces gens-là. Et les imams de la sunna les ont combattus par la science et les arguments. Au point où certains, comme l'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit, pour moi, ce qu'il faut faire aux gens du kalam, ce qu'il faut faire aux gens qui font passer la raison devant les textes, c'est les traîner par terre devant tout le monde et les fouetter. C'est-à-dire le détenteur de l'autorité. Il n'appartient pas à un musulman de la masse de se comporter comme cela. Mais, d'après l'imam Shafi'i, le gouvernant, le détenteur de l'autorité, doit punir ces gens-là et doit, comme on dit, les afficher devant tout le monde de cette façon. Et il dit, et de dire devant tout le monde, « Hada jaza'u man » voici la rétribution de celui qui « khalafa kitab Allah wa sunnata rasoulih » de celui qui a contredit le livre d'Allah et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là disent, هذه طريقة السلف. C'est la voie des salafs. Et ils disent cette fameuse phrase qui est la suivante. Ils disent طريقة السلف أسلم وهي التفويض عندهم وطريق الخلف أعلم وأحكم وهي التأويل. Ils disent la méthodologie des salafs est plus sûre. Et la méthodologie des khalafs, les salafs sont les prédécesseurs. Les khalafs sont les successeurs. La méthodologie des successeurs est plus scientifique. C'est complètement faux. La méthodologie des salafs est plus sûre et plus scientifique. On ne dit pas c'est plus sûr. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que pour eux, la méthodologie des salafs, qui n'est pas leur méthodologie, les pieux prédécesseurs, c'est d'abandonner le sens des textes. Ils disent ça, c'est plus sûr. J'abandonne, comme ça je ne tombe pas dans l'égarement. Alors que les successeurs, eux, sont que dans la science, mais pas dans la sûreté. C'est complètement faux. Tariqatu salaf a'lamu wa ahkam. Hada qawlu ahli sunnah. La parole des gens de la sunnah, c'est de dire la voix des pieux prédécesseurs est plus sûre et plus scientifique. Et ils ont menti sur les salafs, comme nous dit le Cheikh Al-Fawzan. Et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous dit que si en réalité, on faisait des recherches dans ce qu'ils appellent al-aqliyat, les preuves de la raison qui ont contredit le Coran et la Sunna, on se rendrait compte que ce ne sont que des ignorances et des croyances caduques et erronées. Il dit, De même pour les autres, après avoir parlé des gens du kalam, il parle des autres, les soufis, ceux qui innovent et qui se battent sur le goût. De même pour les autres, si l'on étudiait ce qu'ils pensent être des réalités des alliés d'Allah, Awliya, qui contredisent le Coran et la Sunna, on ne verra que des passions qu'ils ont suivies et qui sont suivies par les ennemis d'Allah et de ses alliés. Subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a un écrit justement pour réfuter ceux qui se basent sur la raison, qui font prévaloir la raison au texte. Et c'est dedans qu'il a étalé la parole pour montrer qu'en réalité, les gens de la Sunna disent la raison saine, la raison saine suit les textes du Coran et de la Sunna. Il y a les textes d'abord, et la raison, lorsqu'elle est saine, lorsqu'elle est authentique, lorsqu'elle est correcte, elle suit les preuves du Coran et de la Sunna. Par contre, la raison malsaine, c'est celle qui va abandonner les preuves du Coran et de la Sunna. Car comme nous le dit le Cheikh Al-Fawzan, Al-Aql la yudriku kulla shay. Le raisonnement de l'homme ne peut percevoir tout, toute chose. Le raisonnement de l'homme ne peut pas percevoir la réalité des noms et des attributs d'Allah. Le comment, pardon, des noms et des attributs d'Allah. Ton raisonnement ne peut pas te faire comprendre comment est le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par exemple, n'est-ce pas? Donc, tu as besoin d'un texte. Et après, ta raison va suivre ce texte. C'est la règle chez les gens de la Sunna. Il nous dit, فَهُوَ قَاصِرٌ وَتَابِعٌ لِلنَّقْلِ. Le raisonnement est restreint et il est dépendant et suiveur des textes du Coran et de la Sunna. Il nous dit, وَلَوْ كَانَتِ الْعُقُولُ كَافِيَةً لَمَحْتَجْنَا إِلَى نُزُولِ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ. Si le raisonnement était suffisant, nous n'aurions pas eu besoin de la révélation du Coran et de la Sunna. Donc nous disons à ces gens-là, vous vous basez sur la raison et vous dites que la raison amène à la certitude alors que les textes n'amènent pas à la certitude. La question que l'on vous pose est la suivante. À quoi sert cette révélation alors? À quoi servent ces textes? À quoi servent ces ordres et ces interdits? Si l'on devait se baser sur la raison, nous n'aurions pas eu besoin de ces textes. Et là, vous voyez l'égarement de ces gens. Maintenant, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, va nous montrer la base de l'égarement de ces gens-là. Il nous dit, وَأَصْلُ ضَلَالِ مَنْ ضَلَّ هُوَ بِتَقْدِيمِ قِيَاسِهِ عَلَى النَّصِّ الْمُنَزَّلِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاخْتِيَارِهِ الْهَوَى عَلَى اتِّبَاعِ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ الذَّوْقَ وَالْوَجْدَ وَنَحْوَ ذَلِكَ هُوَ بِحَسَبِ مَا يُحِبُّهُ الْعَبْدُ فَكُلُّ مُحِبٍّ لَهُ ذَوْقٌ وَوَجْدٌ بِحَسَبِ مَحَبَّتِهِ فَأَهْلُ الْإِيمَانِ لَهُم مِّنَ الذَّوْقِ وَالْوَجْدِ مِثْلُ مَا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ هَذَا هُوَ الْوَجْدُ وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ابن تيمية رحمه الله nous dit, et la base de l'égarement de ceux qui se sont égarés. La base de l'égarement de tous ces gens-là, qui se sont égarés. C'est deux choses qui vont être citées ici. C'est le fait d'avoir fait passer l'analogie avant le texte. L'analogie, c'est quoi? C'est le fait de raisonner. Le fait de raisonner et de dire, si telle chose est comme ceci, alors telle autre est comme cela. ils font les analogies entre telle et telle chose. Ils le font avec les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quelle analogie ont-ils fait pour nier qu'Allah a deux mains? Ils ont dit, si nous affirmons qu'Allah a deux mains, nous avons alors décrit Allah comme ressemblant à l'homme, car l'homme a deux mains. Ils ont fait une analogie qui est incorrecte, qui les a poussés au final à délaisser ce texte et ce qu'il contient comme croyance. Ils l'ont alors falsifié, ou alors ils ont dit nous abandonnons son sens à Allah, ça n'a pas de sens. Eh bien, le fait d'avoir fait cette analogie revient à avoir fait passer la raison avant les textes. Savez-vous qui est le premier à avoir fait l'analogie incorrecte? Iblis. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a dit de se prosterner devant Adam, qu'a-t-il dit? Ana khayrun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui. Regardez l'analogie qu'il va faire et ce à quoi elle va le pousser. Je ne me prosterne pas. Pourquoi? Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Donc, pour lui, la comparaison qu'il a fait entre le feu et la terre et qu'il a amené à déduire que le feu est meilleur, le feu est plus fort, etc., l'empêche de se prosterner devant Adam, qui est l'homme qui a été créé à partir de terre, alors que lui, Iblis, a été créé à partir de feu. À cause de cette analogie, qui en elle-même est incorrecte, parce que la terre est meilleure que le feu, lorsque tu t'approches du feu, que va-t-il se passer? Tu te brûles, tu es en danger. Le feu détruit la vie, alors que la terre te porte. La terre fait pousser des plantations, des arbres. Lorsque tu y sèmes des graines et l'arroses, la subsistance sort. Le feu, quand il arrive sur cette même terre, il te détruit tout. Donc même son analogie n'était pas correcte en réalité. Et donc la base de l'égarement de ceux qui se sont égarés, c'est le fait d'avoir fait des analogies et d'avoir fait baser la raison avant les textes du livre d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est tariqatu ahlil kalam, la méthodologie des gens de la parole, des gens de la raison, parmi le Jahmiyyah, le Mu'tazila et les autres. Wa ikhtiyarihi al-hawa 'ala ittiba'i amrillah. Et la deuxième cause de l'égarement, c'est le fait d'avoir choisi les passions au suivi des ordres d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit fa inna dhawqa wal wajd. Car le goût est le sentiment que l'on ressent. Wa nahwi dhalik. Et tout ce qui va dans ce sens-là, huwa bihasabi ma yuhibbuhu al-'abd. Varie en fonction de ce que la personne aime. Tu aimes la farine, le blé, lui aime les tomates et les légumes. Vos goûts ne sont pas pareils. Je me base sur quel goût pour me nourrir? Je me base sur ce qui est véritablement bon pour le corps, sur ce que le corps doit manger, pas sur ton goût et sur son goût. Je me base sur ce dont le corps a besoin, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil pour le cœur. Le cœur, pour se nourrir, a besoin du Coran et de la Sunna. Il n'a pas besoin du goût d'un tel face au Coran et à la Sunna, ni du goût d'un tel autre face au Coran et à la Sunna. Et donc, chacun a son goût. Et en fonction de ce qu'il aime, il fera ou ne fera pas. Les gens de la foi ont un goût. Et là, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, va nous parler du goût, du sentiment que doit ressentir le véritable croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce goût-là est cité dans le Coran et la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il existe trois choses. Lorsqu'elles se réunissent en la personne, celle-ci aura goûté, atteint, trouver, ressenti la saveur de la foi. Là, Ibn Taymiyyah rahimallah va corriger l'erreur de ces gens-là, qui disent j'ai essayé, j'ai goûté, j'ai expérimenté, je m'y sens bien, je trouve que c'est bien, je n'y vois aucun mal, viens avec moi, viens avec nous. Ibn Taymiyyah rahimallah leur dit, écoutez plutôt le goût que vous devez ressentir. C'est le suivant. Il s'agit de trois choses. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Qu'Allah et son messager lui soient préférés à quiconque autre qu'eux. Donc, cela implique de faire passer Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam avant tout le monde. N'est-ce pas? Faire passer Allah et son prophète alayhi salatu wa sallam avant tout le monde, avant toute chose, avant tout désir, toute envie, toute pensée, toute croyance, implique de suivre ce qu'Allah et son prophète ont dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Mais vous, vous dites que ce qu'Allah et son prophète a dit n'amène pas la certitude, alors vous basez sur la raison. Donc, vous n'avez pas trouvé le vrai goût, celui-là qui est dans le Coran et la Sunna. Pareil pour les gens du soufisme et les innovateurs qui disent « j'ai essayé, ça me plaît ». Regarde ce qui doit te plaire. Ce qui doit te plaire, c'est « قال الله قال رسول الله sallallahu alayhi wa sallam ». Celui qui célèbre la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il lui est dit « cette action ne relève pas de la voix d'Allah ni de celle du prophète alayhi salat wa sallam », il te dit « nous ne faisons rien de mal ». On ne fait que se réunir et se remémorer le prophète que nous aimons tant et nous y éprouvons un énorme plaisir et nous ressentons un grand amour lors de la célébration de cet événement. Qu'est-ce qu'ils disent? On essaye, on s'y sent bien, on trouve que cela est bien. Vous voulez voir comment trouver ce qui est bon ou pas bon? Lisez ce hadith. Il existe trois choses, si la personne les réunit en elle, elle aura goûté à la saveur de la foi. Qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que quiconque. Si tu aimes le prophète alayhi salat wa sallam plus que quiconque, tu dois appliquer sa parole. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Quiconque fait une œuvre qui ne relève pas de notre ordre, cette œuvre est rejetée. Je te dis alors, prouve-moi que la célébration de cette naissance relève de son ordre. Je t'attends. Il ne pourra jamais, puisqu'il dit « on a essayé, on s'y sent bien ». Et il n'y a aucune preuve qui dit de le faire. Je lui dis alors, ce que tu ressens, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit « وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ». Le diable leur a embelli leurs actions. Et si tu avais délaissé cette action pour suivre la sunna, ce que tu aurais ressenti, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, وَجَدَ بِهِنَّ حَلَوَةَ الْإِيمَانِ. Il trouvera alors, il goûtera alors, il atteindra alors, il ressentira alors le délice de la foi. C'est comme ça qu'il faut remettre les choses en place. وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Et lorsqu'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Il s'agit ici d'aimer le croyant et de l'aimer en fonction de sa foi. Plus il est croyant et pieux, plus il va être aimé et préféré à l'autre qui est moindre par rapport à lui. وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. Et le fait de détester retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, sauvé soit parce qu'il est né musulman et a grandi musulman, il a donc été épargné de la mécréance à la base, ou il l'en a sauvé dans le sens où il a vécu dans le kufr, mais après Allah l'a guidé à l'islam. Dans les deux cas, cet individu a été sauvé de la mécréance. Il doit alors détester, retourner à cette mécréance, comme il déteste être jeté dans le feu. Également dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ » من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا aura goûté à la saveur de la foi quiconque aura agréé Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Donc voilà comment goûter, voilà le vrai goût. Ô vous les gens du soufisme, voilà le véritable goût. L'autre goût dont vous parlez, Allah Azzawajal en a parlé, ce n'est que l'embellissement du diable des actions. Qu'Allah nous guide et nous en préserve. Voilà un peu comment ces gens s'égarent du droit chemin. As-Sufiyya yuqaddimuna adh-dhawqa wa ma yataladhdhuna bihi walau kana mukhalifan lil-kitabi was-sunnah wa yuqaddimuna al-wajda wa ma wa huwa ma yuhibbunahu 'alayhima. Les gens du soufisme font passer ce qu'ils aiment, ce que leur âme a aimé faire devant le Coran et de la Sunna. Wa hadha aslu ad-dalal. Et ceci est la base de l'égarement. Fatarku al-kitabi was-sunnah wa ja'alu badilihima al-ara'a wal-bid'a wal-adhwaqa wal-mawajid wal-aqyisata wal-uqul huwa alladhi awqa'ahum fi ad-dalal. Le fait d'abandonner le livre et la Sunna pour prendre à la place les avis, les innovations, les goûts, les analogies, les raisons, c'est ça qui a amené tous les gens qui innovent dans leur innovation. Ils ont délaissé le Coran et la Sunna, ils ont suivi leurs pensées, leurs avis, leurs compréhensions, leurs ceci, leurs cela, et c'est ainsi qu'ils se sont égarés de la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: wa amma ahlul kufri wal bid'i wash shahawat fa kullun bihasabih. Quant aux gens de la mécréance, des innovations et des désirs, shahawat, c'est-à-dire les péchés, fa kullun bihasabih, chacun en fonction de ce qu'il fait. Qila li Sufyan ibn Uyayna, il fut dit au noble imam de la sunna, l'imam Sufyan ibn Uyayna, un des salafs: ma balu ahli al-ahwa lahum mahabbatun shadidatun li ahwa'ihim. Mais qu'est-ce que les gens des passions ont alors à aimer, à être pris par autant d'amour pour leurs passions? Quelqu'un a demandé à ce salaf: mais pourquoi est-ce que les gens de la passion aiment autant leur passion? Des fois, tu te dis, lorsque tu vois quelqu'un innover, lorsque tu vois l'assiduité de la personne dans l'innovation, il a appris Salatul Fatih depuis le jour où il l'a appris, depuis le jour où il l'a appris et mémorisé, il ne manque pas un instant où il la récite, c'est-à-dire après les cinq prières et les autres instants, sans le faire. Peu importe l'occupation qu'il a, peu importe le décès d'un proche ou non, peu importe sa maladie ou la pauvreté, il est assidu. Ce Tidjani avec lequel j'ai discuté m'a dit, je le récite, je crois qu'il m'a dit, si mes souvenirs sont bons, depuis plus de 30 ans, je ne l'ai jamais délaissé à aucun moment. Là, tu te dis, mais comment est-ce que l'on peut aimer autant les patients? Et c'est la question qui fut posée à Sufyan ibn Uyayna. Et Sufyan ibn Uyayna lui répondit: فقال أنسيت قوله تعالى وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم. As-tu entendu, as-tu oublié la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en parlant de Banu Israël qui ont adoré le veau en or? Lorsque Moussa, alayhi salam, s'est entretenu avec son créateur, subhanahu wa ta'ala, il s'est absenté et a quitté son peuple. Et il a chargé son frère Haroun de garder ce peuple. Pendant son absence, qu'est-ce que le peuple a fait? Ils ont pris comme idole un veau en or. Wal'iyadhu billah. Lorsque Moussa est revenu, il les a réprimandés. Allah Azza wa Jalla a dit: wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Dans le sens rapproché du verset, c'est que l'amour de ce veau s'est imprégné dans leur cœur. Ou alors, leurs cœurs ont complètement absorbé l'amour de ce veau. Mais encore, l'amour de ce veau s'est complètement emparé de leur cœur. Soufiane ibn Uyna, il lui dit, tu as oublié ce verset? Pourquoi me demandes-tu comment est-ce que l'on peut tant aimer une passion? Souviens-toi qu'Allah Azzajal a dit de ces gens-là, qui sont ces gens-là? Les gens qui ont vu Moussa, alayhi salam. Les gens qui ont marché avec Moussa. Ils ont vu des signes d'Allah Azzawajal. Ils ont accompagné le prophète à qui Allah Azzawajal a parlé. Moussa les a quittés un moment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un veau en or et ils ont été pris d'amour terrible pour ce veau en or. C'est l'amour des passions. Pour cette raison, lorsque tu parles aux gens des passions, certains sont capables de te violenter, de te donner des coups. Ils sont prêts à tout pour défendre leur croyance, tellement leur cœur a absorbé la bid'a, tellement leur cœur a absorbé l'innovation. Si tu lui dis qu'il n'est pas permis, il n'est pas permis d'adorer tel et tel, ils disent, tais-toi, ne me parle pas de ça. Parle des ablutions et de la prière. Parle de tout ça, mais pas de la croyance. Et dans une mosquée d'ailleurs. J'avais justement parlé de At-Tijani. Et ces gens-là ont dit, ils insultent nos ancêtres. Je leur ai dit, parce que je suis revenu une deuxième fois, je leur ai dit, il est vrai que l'on peut croire et que l'on peut dire qu'à travers ces paroles, dire qu'il ne faut pas adorer Tidjani, il ne faut pas suivre la Tidjaniya, il insulte nos ancêtres. Mais détrompez-vous, Tidjani, Ahmed Tidjani est originaire d'Algérie, qui est mon pays d'origine. Donc si je devais critiquer un ancêtre, ça aurait été le mien, pas le vôtre. Car eux n'étaient pas originaires d'Algérie, ils étaient d'Afrique. Donc il n'est pas question d'ancêtre ou de quoi que ce soit. Il est question de « قال الله قال الرسول ». Ibrahim alayhi salam s'est désavoué de son père. Nuh alayhi salam s'est désavoué de son fils. Le prophète sallallahu alayhi salam s'est désavoué de son oncle. Nuh alayhi salam s'est désavoué de son épouse. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'autre de son épouse. Et ainsi de suite. Il est question du suivi du Coran et de la Sunna. Il n'est pas question de répondre au Coran et à la Sunna par des arguments qui ne sont pas des arguments. Les ancêtres, les coutumes, les habitudes, et j'en passe. On s'arrête là pour ce cours, Inch'Allah, et l'on reprend demain. Bi'ilnillahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.